aussi une pratique subjective. Alors, pas subjective au sens où on peut y raconter n'importe quoi, bon, mais au sens où finalement le sujet s'y engage. Et cette dimension de la subjectivité, elle est un peu partout dans votre œuvre, pas seulement quand vous vous confrontez évidemment à la psychanalyse, à Lacan, c'est-à-dire à la question même du sujet, mais aussi quand vous parlez de philosophie en général, d'art et même de politique.
Oui, mais ça c'est lié à ce que je vous disais au début, c'est-à-dire je pense que le philosophe est un enquêteur, c'est-à-dire qu'il doit payer de sa personne pour entrer dans les figures de la nouveauté, de la création, dans les événements, dans l'histoire des événements de la pensée, etc. Et que quand je me raconte, c'est sous cet angle-là. C'est-à-dire, j'essaie par exemple, à propos de Beckett, puisque je vais prendre cet exemple, un début de mon livre sur Beckett, c'est d'arracher Samuel Beckett à la légende qui en fait un personnage du nihilisme, de la déploration, du dégoût de vivre, etc. Et de montrer que, à certains égards, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que c'est un philosophe de la résistance obstinée, du maintien de la nouveauté possible dans des circonstances qui ne la permettent plus du tout, etc. Et alors, je montre comment moi-même j'ai dû faire ce chemin. D'ailleurs, autant que je me souvienne, dans ce livre, j'ai fini par conclure qu'à l'époque où j'ai commencé à lire Beckett, je l'ai lu comme un jeune crétin. Il me semble que c'est ça. Et effectivement, c'est pour indiquer que ce crétinisme est très souvent le point de départ de la relation à quelque chose, et qu'il faut mener l'enquête beaucoup plus loin, il faut lire plus attentivement, il faut se déplacer dans ce qui existe, que ce soit un livre, que ce soit une situation, que ce soit une réunion politique, tout cela doit être une investigation de tout cela dans laquelle il faut payer de sa personne. Dire que finalement la pensée est aussi un labeur, toujours.
Quand vous êtes, et ça arrive souvent, interrogé sur les positions politiques que vous prenez volontiers, à la fois dans vos livres et dans vos interventions militantes, dans vos déclarations publiques, très souvent vous soulignez une différence en nous disant, n'oubliez pas que quand on parle de politique, du politique, il faut faire une distinction bien claire entre le politique, disons comme mouvement collectif visant une émancipation, et puis le politique au sens, disons, de l'État, hein, vous y avez fait allusion tout à l'heure, c'est-à-dire de l'organisation, de l'institution, et le terme d'État devient à ce moment-là tout à fait symptomatique. Est-ce que vous maintenez cette distinction de façon absolument tranchée? Est-ce que vous envisagez un politique au sens de l'émancipation collective qui puisse complètement faire abstraction de la dimension, disons, étatique, auquel cas vous seriez, et je sais que ça n'est pas le cas, plus proche de positions anarchistes que de positions marxistes-léninistes, ou est-ce que vous pensez que cette dimension-là de l'État est, depuis le début, présent dans, disons, le mouvement politique collectif d'émancipation?
Écoutez, je pense que toute politique, au sens où on la prendrait comme une invention de vérité, je l'appellerais une politique qui viserait une espèce d'égalité constitutive des acteurs de la vie collective, de la vie sociale. Je pense que toute politique en ce sens-là, d'après ce qu'on voit dans l'histoire, comporte en réalité trois termes. C'est ça la difficulté. Le premier terme, ce sont les grands mouvements collectifs. Disons, pour reprendre une appellation traditionnelle, le mouvement de masse. Le mouvement de masse, il peut exister à grande ou à petite échelle. Déjà, une grève dans une usine, ça prend un tour de masse. C'est-à-dire, il y a des assemblées générales, il y a des collectifs, il y a des représentants nommés sur place, et tout ça. Ça, c'est très proche de l'événement historique dans son impact politique. Et c'est une composante inéluctable parce que l'expérience montre que s'il n'y a pas ça, il y a quelque chose qui se présente comme de la politique, mais qui, à mon avis, n'en est pas, que j'appellerais une gestion. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ce qui se passe est entièrement soustrait à la possibilité d'un mouvement collectif, ce qui va l'emporter, c'est la gestion, inéluctablement, parce qu'elle a ses lois internes extrêmement prescriptives et qu'elle est soumise à des principes de réalité très, 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 très puissants. Donc ça, c'est la première composante. C'est la composante qui, en vérité, est la forme obscure de la nouveauté. C'est vrai que le mouvement de masse, et c'est pour ça qu'il ne peut pas être le seul agent politique. Pas me convenir sur une position anarchiste. Le mouvement de masse, le mouvement populaire, quel que soit son enjeu, sa cible, etc., comporte toujours un élément d'obscurité parce qu'il présente autour de mots d'ordre simples des subjectivités multiformes. Et on sait très bien que le mot d'ordre simple qui le rassemble ne va pas constituer à lui tout seul une politique au sens où nous en parlons. Cependant, je maintiens qu'il est un acteur inéluctable et fondamental pour tout ce qui serait de l'ordre de la rupture. On pourrait dire aussi que le mouvement de masse, c'est quelque chose qui est à la frontière de la politique et de l'histoire, finalement. C'est l'histoire d'un peuple se concentrant à un moment donné dans une action, dans une protestation collective. Ça, c'est le premier thème. À l'autre extrémité, je dirais, il y a l'État. Et en effet, je répondrai positivement à votre question, on ne peut pas l'exclure du champ, absolument pas. C'est-à-dire, abandonné à lui-même, il devient gestionnaire et éventuellement despotique, mais il est toujours présent comme figure de l'organisation sociale, du pouvoir collectif, etc. Et puis, entre les deux, comme troisième terme tout à fait essentiel, il y a ce que j'appellerais les organisations. Les organisations politiques. Alors, les organisations politiques, elles peuvent avoir bien des formes. Nous savons, elles ont une histoire très complexe, depuis les associations, les grands syndicats prolétariens, les partis disciplinés et militarisés de type bolchevique, ou même de type fasciste, les partis démocratiques, homogènes, finalement, à l'ambiance électorale. Courante, etc., etc. Mais enfin, c'est un terme inéluctable. Alors moi, l'idée que j'ai, je partage toute une tradition, c'est que l'ordre des choses devrait être mouvement, organisation et État. C'est-à-dire que l'ordre des choses devrait être la capacité des organisations à concentrer ce qui s'est donné dans le mouvement et à l'imposer à l'État. Ça, idéalement, le schéma. Et au fond, ce qu'on appelle révolution, ça a nommé pendant longtemps quelque chose de cet ordre. C'est-à-dire un rapport du mouvement à l'État dans lequel le mouvement a ses chances d'avoir le dernier mot, au moins sur quelques questions. Et par conséquent, ces révolutions, ce sont des changements d'État sous l'injonction historique du mouvement et aussi des organisations au mouvement de l'ordre ou au mouvement autorise la création, la formation et le développement. Alors là, l'idée générale, c'est que si la politique, finalement, arrive à prendre le tour de l'ordre général, du générique mouvement, organisation, État, c'est-à-dire si le mouvement arrive à prescrire l'État, si on peut dire, à prescrire quelque chose de l'État, par la médiation de l'organisation, alors on a une politique qui s'ouvre à un futur différent. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est plus une politique de gestion de l'ordre établi, mais une politique qui, au contraire, est dans le mouvement de sa transformation de façon organique. Alors, pour l'instant, ceci n'a existé que dans de courtes périodes de l'histoire et à titre d'esquisse. Alors, on peut dire, ouais, finalement, à la fin des fins, il faut se résigner à ce que la dimension gestionnaire, qu'en vérité, ça fonctionne dans l'autre sens, c'est-à-dire l'État, organisation, mouvement, c'est-à-dire que l'État, finalement, commande en réalité les organisations, parce que les organisations n'ont pas d'autre idée que de s'emparer du pouvoir d'État, donc c'est l'État qui en réalité prescrit les organisations, et les organisations, à leur tour, prescrivent le mouvement de masse, parce qu'elles n'ont pas d'autre idée que de le canaliser, d'en prendre la tête, et de l'empêcher de bousculer, finalement, réellement la situation. Alors c'est ça, vous voyez, la grande contradiction historique concernant la politique. Est-ce que la politique est pensée dans une dynamique qui serait dans l'ordre mouvement organisation État, susceptible d'infinies différences, d'infinies variations? Bien entendu, là, je suis dans le schéma pur, c'est pour la dynamique de la chose. Ou bien est-ce que la politique, en définitive, dès qu'elle se stabilise, qu'elle est tranquille, qu'elle est assoupie, que la plupart des gens n'en font pas, que tout ne s'en soucie pas, elle ne s'installe pas irrésistiblement du côté de l'ordre inverse, c'est-à-dire l'État comme enjeu fondamental des organisations qui, elles-mêmes, créent, si je puis dire, la discipline des mouvements, y compris éventuellement leur répression ou leur impossibilité. Voilà. Donc, c'est cette dialectique des trois termes qui me paraît constitutive de la politique. Et en particulier, je ne crois pas qu'on puisse jamais réduire la pensée de la politique à deux termes seulement. Par exemple, le mouvement et l'État. Les gens et le pouvoir. Les gens et les organisations mis du côté de l'État. Ou au contraire, l'État et puis l'organisation représentant les masses. Dans la vision politique, il y a les trois termes, simplement, les masses finalement s'engloutissent dans l'organisation, le parti finit par représenter les masses comme telles. Donc on retombe sur deux termes. Et là, on pourrait dire aussi ça. Le conseil qu'on pourrait donner à quiconque se mêle de faire de la politique et de la faire dans la visée communiste, ça n'a jamais signifié que les trois termes pris dans l'ordre que je dis, c'est-à-dire finalement quelque chose qui viserait à une société délivrée de la dictature du profit privé, aussi égalitaire que possible. Voilà. Et ça, le conseil qu'on peut donner dans ce cas, c'est veiller